Le masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue toujours sans public au théâtre de l'Alliance française pour un masque et la plume consacré à la littérature avec Olivia de Lamberterie, Duel, Jean-Claude Raspienjaz de la Croix, Michel Crépu de la respectable Nouvelle Revue française et Arnaud Vivian de Transfuge et de Regard. On parle ce soir de Serge Joncourt et Thibaut de Montaigu, respectivement prix Fémina et prix de Flore, de la bio de Paul Morand par Pauline Dreyfus, des souvenirs de Philippe Labraud et d'une édition inédite des lettres à un jeune poète de Rilke. Dans le courrier de la semaine à propos, à nouveau, de l'anomalie d'Hervé Le Tellier, vous savez qui vient de recevoir le prix Goncourt. Éric Doucet de Lyon a trouvé ce roman passionnant de bout en bout et désapprouve Nelly Caprielian qui a comparé ce livre à une série de Netflix. C'est ne pas voir l'humour de l'auteur qui, tout en se moquant du genre, va beaucoup plus loin. Ce n'est pas le jeu des sept familles, mais une partie d'échec génial. Et je rappelle que le prix Renaudot, lui, est allé à Marie-Hélène Lafont. Il y a 15 jours, pour son roman « Histoire du fils » chez Buget-Chastel, et que le prix Interallié a couronné un livre dont on avait dit beaucoup de bien à cette tribune, signé Irène Frein. À propos de Patti Smith, et après avoir écouté Le Masque, Dominique Dejoux s'est précipité chez son libraire pour collecter l'année du singe, impatiente de retrouver la poésie de Patti Smith. Là, dès le début, nous écrit-elle, j'y ai trouvé des lourdeurs de style, ce n'est pas du Patti Smith. J'ai donc comparé avec l'original trouvé sur Internet et j'ai compris ce que je prenais pour des lourdeurs de style n'était autre que les lourdeurs du texte traduit. J'ai donc commandé la version originale de l'année du singe. Jean-Baptiste P, qui se définit comme étudiant chanteur, ne veut pas qu'Olivia s'émeuve d'avoir blessé David Fuenquinos, qu'il appelle cet auditeur le plumitif à encre sèche. Le masque du 3 mars 2019, ils sont en plus archivistes nos auditeurs, qui semble avoir déclenché le courroux de Fuenquinos, fut l'une des plus intenses de ces dernières années. On y parla de deux sœurs insipides, d'une goûteuse à l'urine d'asperge, d'un moustachu végétarien, d'un écrivain chinois au sommet de son art, etc. Une heure de bonne critique valent bien une page de mauvaise littérature, n'y changez rien. Enfin, Marc Fournier d'Avignon nous exprime, et il a raison, son coup de cœur pour le dictionnaire amoureux de l'inutile chez Plon, signé François Morel, le père, et Valentin Morel, le fils, qui convoque, entre autres, la moustache de Jean Rochefort, la coiffure de Giscard, enfin la coiffure de Giscard c'est un peu un oxymore, la guitare de Tino Rossi, la météo marine qui fut longtemps le préambule du Masque et la Plume. On se croirait presque, nous dit cet auditeur d'Avignon chez Alexandre Vialat, ce dictionnaire amoureux, c'est la vie qui va, aussi gracieuse et indispensable qu'un dessin de Sempé. Je l'ai lu également et je confirme,
Une merveille. C'est une merveille et j'ajouterais qu'il y a une correspondance entre avec François Génada. Morel et Génada au sujet des parenthèses, dans les parenthèses, dans les parenthèses.
La réponse de Génada est en pleine de parenthèses.
Et vraiment extraordinaire et on découvre vraiment pourquoi il y a tant de parenthèses drôles et spirituelles dans l'œuvre sombre de Philippe Génada.
Et puis au nom de l'inutile, ils font rentrer les pères et les fils à peu près tout ce qu'ils veulent dans ce dictionnaire.
Pour Noël, moi je conseille à nos très bon cadeau de Noël. Le fameux slip bonbon.
Oui.
Par exemple.
Oui. Est-ce qu'il est vraiment inutile? Je n'en suis pas sûr, ma chère Olivia. Et on commence avec Serge Joncourt et son roman Nature humaine chez Flammarion qui vient de recevoir le prix Fémina, ce qui en a fait aussitôt un gros succès de librairie. Un roman qui se situe dans la France rurale entre 1976 et la tempête de 1999. Agriculteur dans le Lot, Alexandre a rencontré à Toulouse Constance, une Allemande de l'Est, militante antinucléaire, qui va l'entraîner du côté des activistes violents. Nature humaine, roman en flashback, c'est surtout 30 ans de la vie d'une ferme. Et les révolutions du monde agricole, je ne vais pas toutes les raconter, le productivisme, les animaux en batterie, la vache folle, les engrais, le Roundup, l'agriculture intensive, etc., avec cette alternative récurrente, s'adapter au monde moderne ou crever. Et en toile de fond, l'élection de Mitterrand, la catastrophe de Tchernobyl, la chute du mur de Berlin, j'en passe. Je sais que vous n'êtes pas ici au masque et la plume très 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 nature, surtout Olivia et Arnaud. Mais avez-vous été sensible à cette traversée dans un décor assez idyllique, il faut dire, de la France agricole, Olivia ?
J'aime beaucoup l'œuvre de Serge Joncourt. Je crois que je le lis depuis ses toutes premières nouvelles aux Dilettantes. Et je dirais, parce que j'aime beaucoup l'homme et que je trouve que l'homme et l'œuvre ont un charme fou, que celui-là n'est pas mon préféré. Je trouve que le procédé qui consiste à raconter une époque au travers d'une famille ou d'un personnage est toujours assez difficile, casse-gueule. Et là, je trouve que ça donne des choses un peu convenues, que la manière qu'il a de raconter l'époque d'hier pour expliquer le désastre écologique d'aujourd'hui me paraît aussi un peu convenu. Ce que j'ai trouvé très beau dans ce livre, en fait, c'est la condition de fils d'agriculteur, non pas dans son travail, mais au sens de fils sacrifié. Ce que ça veut dire...
Parce que les sœurs sont parties à la ville.
Il y a trois sœurs qui sont parties justement faire leur vie dans des villes. Et lui, c'est le fils qui reste. Et ce que j'ai trouvé très beau dans ce livre, c'est cela. Et je trouve que le beau sujet du livre, pour moi, c'est ça. C'est l'impossibilité de faire sa vie, quand d'abord on vit avec ses parents, un grand temps, on reste un fils. Et puis, l'impossibilité de l'amour. Parce que je trouve que ce qui est beau dans ce livre, c'est le fils sacrifié et cette histoire d'amour impossible avec cette Allemande.
Avec cette Allemande de
l'Est. Et là, je trouve qu'il y a un très beau sujet sur comment... Cet homme, il a la nature immense devant lui et une vie qui se rétrécit. Ça, je trouvais ça très beau.
Donc finalement, tu n'es pas totalement insensible au paysage de la nature française.
Non, mais j'aime de plus en plus la nature maintenant. Bien, j'embrasse les arbres. C'est l'âge.
Arnaud.
Cela dit, tu dis que c'est pas ton préféré. Je le préfère quand même nettement au précédent, qui s'appelait Chien-loup, c'est ça, qui était pour moi absolument nul. Celui-là, il y a un petit peu moins nul parce qu'il y a un sujet, tout simplement, un sujet que le cinéma a beaucoup traité l'année dernière, c'est le sujet à la mode, les agriculteurs, c'est quand même nouveau et on peut s'en féliciter. Ça m'a fait quand même beaucoup penser à un livre admirable, à mon sens, qui était Règne animal, de Jean-Baptiste Delameau, il y a 4 ans, qui racontait, lui, l'histoire d'une porcherie.
C'était sur un siècle. Très violent.
Très, très violent.
Sur un siècle et non pas sur 30 ans, c'était parfois surécrit, Jean-Baptiste Delameau. Là, c'est parfois sous-écrit, il faut bien le dire. Il y a quand même des facilités un peu partout. Et en même temps, je dois dire 2 ou 3 détails bien sentis. Par exemple, à un moment, il parle des poissons rouges dans l'abreuvoir des vaches pour que ceux-ci bouffent les algues et les larves et que l'eau soit propre. Ce genre de petits détails où on se dit quand même le gars a travaillé. Quoi.
Il a bossé,
pour moi, c'est ça... Joncourt, c'est l'employé du mois, c'est Stakhanov, il écrit des romans depuis 20 ans, il en fait un tous les 2 ans avec un rythme d'horloge, il va les vendre dans les librairies bien consciencieusement, et donc il y a ce côté chez lui qui, en même temps, il avait écrit un livre qui s'appelle L'écrivain national, et on peut dire que oui, c'est un peu l'écrivain national, Serge Joncourt.
Ce que je vois moins, c'est le rapport entre la définition, disons, du prix Fémina, et l'attribution à ce livre que je ne trouve pas particulièrement proche de ses principes. Jean-Claude.
Eh ben moi, je trouve que c'est un roman très simple. Tu parles de facilité d'écriture. Moi, je le trouve simple et dans sa simplicité, très réussi. Et précisément, sa réussite vient de sa simplicité. C'est-à-dire que c'est un roman pendulaire entre le mouvement et l'immobilité. C'est-à-dire l'immobilité de cette famille, de ce père qui reste là, de ce Cassandre, ce vieux militant qui est toujours de tous les combats, mais qui reste là, et qui est une sorte de Cassandre, qui est aussi un visionnaire, c'est-à-dire qui voit ce qui va arriver. Et il est là, il bouge pas, et c'est lui qui a raison. Et il est à contre-courant de l'histoire, c'est-à-dire que l'histoire, c'est le mouvement. Le mouvement, c'est les sœurs qui s'en vont, c'est l'arrivée des supermarchés, c'est la construction de l'autoroute, c'est l'accélération des industries agroalimentaires, c'est les hypermarchés qui contraignent tout autour d'eux, et puis l'arrivée du discours écologique par des personnes qui ne connaissent plus la nature. Et ce qui est beau aussi, c'est cet éloignement des enfants qui, quand ils s'éloignent et qu'ils reviennent de temps en temps, et de moins en moins souvent, n'ont plus aucun contact avec ce qui a été leur vie et qui est celle permanente de leurs parents. Et je trouve qu'il y a dans ce livre quelque chose de très beau. Et justement, la simplicité renvoie à la simplicité de ces vies-là. Et franchement, j'en cours, moi, à mes suffrages, féminin ou pas féminin.
Michel, alors je trouve le titre de ce livre magnifique. Nature humaine, on dirait un livre de Graham Greene, ou la grande époque du roman un peu métaphysique et qui arrive à ressaisir les mouvements de génération à travers le temps, etc. Le problème, c'est que ce livre ne tient pas sa promesse vis-à-vis de ce titre magnifique. Donc, ce qui ne va pas...
En gros, si je te comprends bien, tu as aimé le titre.
Oui, j'ai aimé le titre.
Mais pas le reste.
J'ai été très déçu par le reste, parce que le reste ne me paraissait pas répondre à l'offre de ce titre admirable. Pourtant, j'ai lu des choses de Joncourt qui m'ont plu autrefois. Enfin, il y a par endroits dans ce livre des moments réussis, mais dans l'ensemble, il y a une tiédeur, il y a quelque chose qui fait que on ne sent pas cette espèce de vertige justement de la nature humaine qu'on trouve dans Graham Greene ou dans...
De toute façon, tous vos arguments s'annulent d'un simple fait. C'est que Serge Joncourt parle de l'anthésite. C'est la madeleine de nos colonies de vacances, ça, l'anthésite.
Je connais pas.
Ah ben.
Tu peux nous expliquer ce
qu'a... L'anthésite, c'était une boisson abominable. Dans les colonies de vacances, on nous abreuvait.
Vous connaissiez, Olivia, Arnaud, l'anthésite ?
Non. Ah ben moi, en lisant, quand j'ai lu Anthésite, ça a été une sorte de madeleine. D'un seul coup, tout l'univers des colonies de vacances s'est déployé.
Ce sont tes propres souvenirs que tu as lus dans Nature Humaine.
On est un petit peu de cette génération, là, quand même.
Nature Humaine, c'est donc Serge Joncourt. C'est le prix Fémina et c'est chez Flammarion. Autre trophée de saison, le prix de Flore a couronné Thibaut de Montaigu pour son livre sobrement intitulé La Grâce. Voilà un titre qui devrait te plaire, Michel. Et paru chez Plon. Au départ, Montaigu voulait écrire sur Xavier Dupont de Ligonnès, dont on parlait au dernier masque littéraire à propos du récit de Bruno de Stabenrath à Buenos Aires, où il était alors expatrié et en dépression. Une psy avait même préconisé à Montaigu, en guise de thérapie, de mener une enquête sur ce criminel en cavale. Il s'y est donc attelé au début, hein. Et puis, sur les traces de Ligonnès, il s'est retrouvé dans une abbaye bénédictine près de Carpentras, où il a eu la révélation. Pour l'ancien jet-setter et athée farouche, voici que Dieu existait. Il a alors cessé de poursuivre Ligonnès et a mis ses pas dans ceux de son oncle paternel, Christian de Montaigu. Il y a un petit côté visiteur quand même dans ce nom, hein, si vous permettez. Christian de Montaigu, aujourd'hui disparu, un osseur homosexuel qui a également quitté les nuits parisiennes pour devenir prêtre franciscain dans le Nord, puis dans la banlieue ouvrière du Havre. « J'ai essayé, écrit Thibaut de Montaigu, d'approcher au plus près ce miracle qui fait surgir la lumière au plus profond de la noirceur. » Jean-Claude, je me tourne d'abord vers toi.
C'est typiquement le livre à contre-courant, c'est-à-dire ce récit d'une conversion foudroyante et absolument pas dans l'air du temps, ça c'est clair.
Non, ce qui est dans l'air du temps, c'est Ligonnès.
Oui, c'est ça, oui. Qui d'ailleurs disparaît assez vite du livre et le pauvre part à l'obscurité où il est parti.
Oui, mais c'est intéressant que c'est en partant sur cette race qu'il soit tombé sur ce...
Oui, moi j'ai trouvé ça anecdotique. Mais non, je trouvais ça anecdotique, c'était évident.
Il cherche le diable, il trouve Dieu, c'est...
Oui, non, ce qui est plus intéressant, c'est évidemment la forme en creux de cet oncle qui surgit. Mais d'abord, je dois revenir sur le récit de la conversion. Et c'est un récit formidable, c'est un grand livre, c'est un témoignage capital sur ce genre de miracles qui tombent sur certains. Et en tout cas, tous les récits de conversion se ressemblent. C'est un peu comme les expériences de mort imminente. Ils se ressemblent tous, mais c'est pareil. Ceux sur qui ça tombe, mais réellement ça tombe, font tous le même.
Tu veux dire, c'est le pilier de Claudel de manière incontestable.
Oui, c'est le pilier de Claudel. Mais il y en a plein. Enfin, des récits de conversion soudain de gens qui s'y attendent absolument pas et qui sont terrassés par ce qui leur arrive, y compris certains qui combattent ce qui leur arrive en disant c'est pas possible, je peux pas aliéner ma liberté à ça. Mais qu'est-ce qui fait que chez lui c'est différent? C'est cette forme très mouvementée de son introspection qui va s'accrocher à cet oncle qui va lui servir un peu de guide, puisque ça a été, ils ont partagé à peu près la même condition, de nos sœurs, comme dit de Montaigu, Thibaut de Montaigu, il disait « je croyais m'épanouir dans la transgression », et il rentre là-dedans, et ce qui est absolument formidable, c'est son enquête. C'est son enquête pour essayer de se caler sur les pas de son oncle, quoi. Et ça, c'est quand même très 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 beau. Il y a évidemment la façon dont il suit aussi l'ombre de Saint-François, évidemment il s'arrête lui à mi-chemin, et puis surtout, dans cette enquête sur cet oncle, c'est l'illustration, par l'exemple, des trois vertus théologales, qui sont la foi, l'espérance et la charité, vertus auquel s'astreignait son oncle et qui n'est pas tout à fait son cas à lui. Et c'est intéressant parce que à la fin du livre, on voit bien qu'il est toujours secoué, il est illuminé, toujours, encore aujourd'hui, hein, vraiment. Il craint pas de s'exposer au scepticisme et au nihilisme contemporain, mais il y a quelque chose qui plane dans ce livre et qui est tout à fait intéressant, c'est le grand doute. Et si Dieu n'existait pas? Si tout ça... Voilà. Et il ouvre, alors qu'il a rempli son livre de ce qu'il le remplit lui-même, d'un seul coup, il ouvre la perspective d'un gouffre qui était « et si Dieu n'existait pas ?»
Michel, as-tu été sensible à cette conversion, si j'ose dire ?
J'ai été sensible à ce livre, oui, absolument. Et je dirais que Montaigu réussit exactement ce que Joncourt n'a pas su faire. Avec Joncourt, on reste dans la sociologie d'époque et les statistiques sur les mouvements paysans. Là, on est en face de quelque chose de profondément bernanosien, si on peut dire, ou même bataillien. C'est un livre profondément bataillien, ce livre.
Et, alors, bataillien, ouais, je précise à nos éditeurs, c'est Georges Bataille.
Georges Bataille, oui. C'est la grande confrontation du sexe avec la mort.
Toi, t'étais, avant la NRF, tu étais très jet-setter, donc tu connais bien aussi le passage.
Je connais bien.
De la nuit parisienne.
Oui, absolument.
À la.
Des vieux souvenirs.
À la fois.
Oui, oui. Non, c'est un livre très étonnant. Un des livres les plus étonnants de cette rentrée, parce qu'il fait sentir cette espèce de vertige à la suite de ce personnage fascinant de Christian, là, qui est vraiment, je trouve, absolument étonnant. Il y a quelque chose dans ce livre qui ne ressemble pas au... Ça fait très longtemps que j'ai pas lu...
Mais même le titre, hein, La Grâce... un titre de...
Ça fait penser au grand titre de Graham Greene.
Oui. Là encore, c'est comme pour le féminin, La Grâce, qui a le prix de Flore,
oui.
Il y a quelque chose, là encore, qui frôle l'oxymore, non ?
Ah oui, tout à fait, oui. Bon, j'ai pas voté pour lui,
Je rappelle que tu es membre du jury du prix de Flore.
Oui.
Entre
autres. Mais je n'ai pas voté pour lui, j'ai voté pour Alexandre Labruf, Un hiver à Wuhan, mais qui, en dépit de son titre, est le livre sans doute le plus désopilant de cette rentrée littéraire. Cela dit, je fais corps avec mon jury.
Ah.
C'est une lecture extrêmement agréable. Toute l'histoire de son oncle, et notamment à partir du moment où je trouve où ça devient passionnant, c'est quand il devient franciscain. Ils vont à Bordeaux avec quelques franciscains et ils vont travailler sur le terrain. Il y a une visite d'Alain Juppé qui leur amène des croissants. Et la manière après dont il va avoir des difficultés dans l'ordre franciscain, c'est tout à fait remarquable et passionnant. Pour moi, si vous voulez, il y a deux choses. Je suis un petit peu sceptique, c'est le moins qu'on puisse dire, sur l'idée de sa conversion. C'est vraiment pour moi un grand livre sur la psychanalyse. Hein. C'est-à-dire que il était en Argentine, dont on sait que c'est le grand pays aujourd'hui de la psychanalyse. Il est en dépression, il va voir une psychanalyste qui lui dit « commence à chercher et tu auras trouvé ». Il y va, c'est l'histoire de Dupont de Ligonnès. Il va dans cette abbaye où soi-disant Ligonnès serait passé pendant sa fugue.
C'est la raison pour laquelle il arrive dans ce monastère.
Qui a aussi abrité autrefois Paul Touvier, Dieu reconnaîtra les siens. Et à ce moment-là, un peu comme Claudel, derrière un pilier, il reçoit la grâce. Et là, Montaigu écrit qu'il est littéralement déchiré. J'ai envie de dire que s'il avait été littéralement déchiré, il serait pas là pour le raconter. Mais bon,
si, je suis pas d'accord.
Il y a quelque chose d'intéressant dans cet adverbe, c'est que grâce à cette psychanalyste argentine, il va avoir quand même trois choses. Un, il va trouver Dieu. Deux, il va trouver le sujet de son bouquin. Trois, il va avoir le prix de Flore. Et donc je dis, bravo la psychanalyse. Vraiment,
merci,
bravo
la psychanalyse. Olivia.
Moi, j'ai trouvé que c'était très fascinant comme livre. D'abord parce que c'est un enjeu littéraire quasi impossible de vouloir mettre des mots sur quelque chose qui est au-delà des mots ou au-delà du verbe, pour reprendre un langage religieux.
Même si d'autres écrivains l'ont effectivement
fait. Bien sûr, mais que c'est quand même assez costaud comme ambition de raconter ce qui se passe au-delà de la raison. Et je trouve qu'il le fait très très bien grâce au personnage de son oncle. Parce que ce qui est génial dans ce personnage, c'est qu'on peut penser qu'à partir du moment où la grâce vous tombe dessus, la vie est un champ de coquelicots. Or, pas du tout. Et notamment avec l'histoire du franciscain, c'est un livre et un destin extrêmement douloureux. Parce qu'on se rend compte que cet homme, donc cet aristo, au début il a une formule assez rigolote, je ne sais plus, qui sentait la veste en velours, qui travaillait avec Gunter Sachs, le mari de Brigitte Bardot.
Qui gagnait très bien sa vie
et qui avait quand même une assez haute idée de lui-même. Eh bien, même lorsqu'il devient un prêtre et un franciscain, il est toujours dans cette espèce de volonté d'avoir une vie exceptionnelle.
Et ce qui est le plus beau, c'est comment lui, il découvre la grâce. C'est-à-dire qu'il part en Espagne avec ses parents, il s'arrête pour pisser sur un coin de route, et là, il sort pisser et la grâce lui arrive.
C'est toujours ça.
Claudel n'a pas pissé contre le pilier de Notre-Dame.
Mais si je puis continuer, ce qui est intéressant, c'est de voir comment cet homme a été toujours terrassé par son péché d'orgueil. Parce que franciscain qu'il était, il se voyait comme quelqu'un qui avait un destin exceptionnel. Et quand il va comprendre que finalement, ce que Dieu te demande, c'est absolument tout le contraire, c'est-à-dire vraiment chérir une vie minuscule.
Et là, les franciscains vont bien le casser.
Ah bah, bien sûr. Je trouve que rien n'est prévisible dans ce livre. Et quand tu dis qu'il est déchiré lorsqu'il reçoit la grâce, mais oui, parce que la grâce n'est pas une ardoise magique qui efface ta vie d'avant.
C'est ça, la
et donc,
grâce.
Il explique.
Non, c'est littéralement qui me gêne.
Il explique très bien, Thibaut de Montaigu, que le problème, c'est de faire cohabiter le garçon d'avant avec celui qui a eu la révélation.
Le vieil homme et le nouveau.
Moi, je trouve que c'est très douloureux, très subtil et assez beau.
Et ça s'appelle La Grâce, et c'est chez Plon, et c'est signé Thibaut de Montaigu, et c'est le nouveau prix de Flore. Allez, Paul Morand, la biographie. Chez Gallimard, signé Pauline Dreyfus, en même temps que paraît toujours chez Gallimard, L'Abject, je pèse mes mots, journal de guerre, Londres, Paris, Vichy, tenu par Morand entre 1939 et 1943, puisqu'on y voit en effet le conseiller de Pierre Laval à Vichy et ambassadeur du maréchal Pétain en Roumanie, sympathisé régulièrement avec René Bousquet, l'organisateur de la rafle du Veldiv, et Darquier de Pellepoix, le commissaire général aux questions juives, approuvé le port de l'étoile jaune, regretté, ça c'est un passage qui m'a, je dois avouer, fait un peu hérisser, regretté que les Allemands réquisitionnent 20 000 chevaux français, mais ne s'offusquent surtout pas qu'ils déportent les juifs, lesquels n'ont-ils, je parle de Paul Morand toujours, en juillet 43, sont des mouches qui viennent se poser là où il y a déjà de la fermentation. On salue donc Pauline Dreyfus, qui a eu le cran de consacrer une biographie à cet écrivain que, pour des raisons littéraires, je le précise, elle admire. Et donc, elle raconte la vie très mondaine, très carriériste aussi, et ça commence très tôt, hein, de ce cumulard, puisqu'il était à la fois antisémite, xénophobe et homophobe, ami de Proust, Giraudoux, Chardonne, Nimier, fou de chevaux, de voitures rapides, de voyages, marié à une princesse grecque, Hélène Soudzo, encore plus antisémite que lui. Il a fini, non sans mal, après 5 tentatives, par entrer à l'Académie française. Le plus drôle, c'est que c'était, si j'ose dire, en 1968. Tous libérés, sauf l'Académie. Bref, c'est une bio que, pour ma part, j'ai trouvée assez exemplaire par son honnêteté et en même temps par sa fougue et aussi son cran. Paul Morand de Pauline Dreyfus. Michel.
Alors, moi, jusqu'ici, avec Morand, je me trouvais assez bien avec la formule de Solers, Morand quand même. C'est une façon de conjuguer le salopard avec le magicien, l'odieux avec le magicien, un écrivain merveilleux qui est celui qu'on connaît.
Surtout dans le bref, hein, parce que dans le long.
Surtout dans le bref.
En effet. Long, c'est plus pesant.
Cela dit, il y a un premier roman qui s'appelle Monte au ciel, qui est peu lu et peu connu, qui est vraiment un vrai roman, plus qu'une nouvelle, et qui est tout à fait extraordinaire. Mais bon, là, ce qui s'est passé avec à la fois la lecture du livre de Pauline Dreyfus et le journal, c'est que ce lien, je parle pour moi, je prétends pas donner une vérité de la chose, mais le lien qu'il y avait entre l'écrivain, le magicien et l'abject, ce lien est rompu. Il y a quelque chose qui s'est cassé dans ma lecture, et je me suis rendu compte, j'ai constaté que je ne pouvais plus me reposer sur cette...
Alors, il faut dire que ce journal fait 1000 pages.
Ce journal fait 1000 pages.
Enfin, je parle du journal de guerre, il est à peine écrit, et c'est une succession...
On est au sommet de l'abjection. Vraiment, c'est pas croyable. À Vichy, il y avait une espèce de réfectoire qui s'appelle la popote, où on se retrouvait pour dîner. Il y a des scènes de dîner entre Darquier de Pellepoix, je ne sais plus comment s'appellent les autres, ma mémoire ne
veut pas... Bousquet.
René Bousquet, etc. C'est pas croyable. On a l'impression d'ailleurs d'entendre dans le lointain les trains qui emmènent les Juifs à Auschwitz.
Surtout, on apprend que l'administration, enfin de Vichy, savait parfaitement qu'il y avait extermination au bout du voyage.
Oui, tout à fait.
C'est surtout et très tôt.
Tout à fait.
Qui a toujours été nié.
Hein. Quand on entend Bousquet, je ne sais plus si c'est Bousquet ou Darquier de Pellepoix, dire à table au moment du fromage, demain, les Juifs ne se rendent pas compte, ne se doutent pas de ce qui les attend demain soir. C'est pas possible. On peut pas. Je ne peux pas avaler ça.
Est-ce que je comprends pas très bien? Tu veux dire que ça t'a empêché de lire la biographie de Pauline Dreyfus?
Non, la biographie, je l'ai lue et j'ai d'ailleurs parlé assez longuement avec Pauline Dreyfus. Je trouve qu'elle a fait un travail d'une honnêteté absolument remarquable. Elle a absolument tenu en équilibre le magicien et l'odieux. Mais je peux plus. Je ne peux plus.
Olivia.
Alors moi, je n'ai jamais eu de fascination pour Morand. Et quand tu distingues le magicien et l'odieux, moi, je trouve que finalement, il y a un lien entre les deux très fort, parce que la sécheresse du style de Morand n'est pas ce que j'admire le plus en littérature, et que cette sécheresse du style, elle est souvent alliée avec une absence totale de tendresse, d'empathie, une espèce de sécheresse de cœur dans son œuvre.
Pas dans les nouvelles, hein. Enfin, si tu me permets, Ouvert la nuit, fermé la nuit, ou Milady, sont pas des livres,
mais enfin,
ni sans tendresse.
Non plus
ni...
des livres débordants.
Il n'y a pas d'amour.
Voilà. Il y a des portraits de femmes magnifiques, et je me souviens de mon plaisir à découvrir Lewis et Irène quand j'avais 18 ans ou L'homme pressé. Mais je suis toujours restée assez en retrait. Et d'ailleurs, je ne voulais pas venir à cette émission, je ne voulais pas lire ce livre,
à cause de Morand.
À cause de lui. Alors, le livre, tu découvres que effectivement, il est antisémite au-delà des mots, qu'il est misogyne au-delà des mots. J'ai passé beaucoup trop de temps, j'ai perdu mon temps avec les femmes et dans les garages.
Homophobe au-delà des mots.
Homophobe au-delà des mots, antisémite au-delà des mots. On avait beaucoup mis ça sur le dos de sa femme, mais en fait, honnêtement, il n'a pas besoin de sa femme.
Elle,
c'est gratiné.
Ah ben, elle,
à côté, Elena Ceaușescu, c'est une gentille fille.
Je n'oserais même pas reproduire à l'antenne des phrases qu'elle sort dans des dîners. C'est au-delà de leur... Enfin, c'est un mec qui est... d'une antipathie absolument sans faille. Vraiment.
Ce que montre très bien, entre parenthèses, si vous permettez, Pauline Dreyfus, c'est que depuis ses 20 ans, il ne pensait qu'à faire carrière.
Absolument.
Il ne vit que de mondanité.
Il n'aime qu'une chose,
que
c'est le
gratin. D'entre-gens.
Alors, comme elle le dit très bien, il a cette expression qui, je dois dire, est assez drôle. Il dit « c'est roulant ». Voilà. Eh bien, pour lui, la vie, c'est roulant. Et en plus, il n'aura absolument aucun regret et aucun remords. Une fois que je vous ai dit ça, j'ai trouvé que la biographie était remarquable. Je l'ai dévorée. D'abord, je trouve qu'elle est fort bien écrite. Mmh. Et ce qui est fascinant, c'est que chaque personnage qu'il rencontre, là, je parle pas de la collaboration, etc., mais dans la première partie, dans les années folles, et dans ces années de bœuf sur le toit et d'avant-garde, moi, je l'ai lu la bouche ouverte, quand même. La rencontre avec Proust, qu'on connaissait déjà, qui est mythique. Mais enfin, la manière qu'il a de raconter les dîners dans les cuisines du Ritz, avec Proust qui arrive défait, habillé de trois modes de retard, qui commence par le dessert. Tout ça est quand même très fascinant. Et les années avec Cocteau, le réveillon, dans les salons d'essayage de Chanel, avec Gabrielle Chanel. Tout ça est quand même
fascinant. Elle fait une chose
que
font rarement les biographes d'écrivains, c'est qu'elle dit les livres de lui qu'elle aime et ceux qu'elle n'aime pas. C'est-à-dire elle se mouille, si j'ose dire, elle donne son sentiment.
C'est vrai. Et parfois, alors je n'ai pas le recul pour le dire, mais est-ce qu'elle ne manifeste pas un tout petit peu d'empathie à la fin?
Si.
Point d'interrogation.
Arnaud.
Ouais, il y a deux choses. Il y a d'un côté, Paul Morand, vous en avez beaucoup parlé, puis il y a la biographie elle-même. En ce qui concerne Paul Morand, c'est quand même stupéfiant de penser qu'il aura connu Marcel Proust et Nathalie Baye, dont on apprend qu'elle a été la lectrice de sa femme
lorsqu'à la fin, quand elle était aveugle.
Quand elle est devenue aveugle, et que Alain Delon, qui jouait dans L'Homme pressé, a racheté les deux tiers du mobilier de Paul Morand parce que il avait interprété ce rôle. C'est là où on voit quand même, tout est résumé. Il a connu Proust et Nathalie Baye. Et il y a plein d'anecdotes. Moi, je pense que c'est ce qu'il y a de meilleur dans ces biographies, c'est les anecdotes. Le fait que Gaston Gallimard ait offert une Aston Martin à Roger Nimier et que celui-ci l'avait tout de suite surnommé sa voiture Gaston Martin. Bon, ben voilà, moi, ça me fait ma journée, ce genre d'anecdotes littéraires. Je suis parfois, disons que Pauline Dreyfus, en tant que biographe, renverse pas mal de tabous. Tu en as dit un, c'est celle de donner son opinion sur les livres. Il y a quand même parfois, elle a essayé de reprendre l'idée de la vitesse, qui est quand même ce que Paul Morand aura apporté à la littérature française. C'est la vitesse du français qui soudainement...
Et le style jazzy vanté par Céline.
Oui, vraiment, qui semble soudainement accéléré. Moi, j'ai beaucoup adoré, quand j'étais jeune, les nouvelles, pour cette raison-là. Hein, cette accélération subite du français, c'est pas par hasard.
Souvenez-vous du bouquin de Jean-François Fogel. Morand Express, dans la vitesse.
Par hasard, s'il a possédé 35 voitures dans sa vie, il est l'homme de ça, de l'accélération. Et en même temps, ce qui est intéressant, je trouve, elle prend cette vitesse, mais par exemple, quand elle écrit « L'enfant était né adulte », on se dit, c'est joli comme phrase, ça pourrait même être une phrase de Paul Morand, mais il me semble que c'est faux, et que, d'une certaine manière, voilà, elle évacue complètement l'enfance de Paul Morand, alors que moi j'ignorais le succès de son père en tant qu'écrivain.
Mais c'est lui qui l'a dit, c'est Morand qui a dit, il y a une phrase, il dit qu'il est né vieux, et moi je pense que tout est là, c'est cet homme n'a pas eu d'enfance.
Oui, absolument.
Et d'ailleurs, c'est peut-être là
pour ce qu'on en lit, c'est plutôt le contraire, il a été adoré par ses deux parents.
Oui, mais c'est pas pour ça que tu as une enfance. Il dit, pour lui, c'était une sorte de moment à passer.
Et c'est ce que je disais aussi. Il a fait carrière dès l'adolescence. Voilà. Hein. Et il a voulu réussir dès l'adolescence.
Je trouve que c'est ça qui est intéressant dans le livre et qu'elle le dit bien. Il n'a pas eu d'enfance.
Pour finir, ce qui est assez frappant aussi, ce qui ressort de cette lecture, c'est que j'ai l'impression que pour Morand, les deux monuments littéraires avec lesquels il allait rester, c'était les deux monuments qui l'accablent d'un point de vue de son antisémitisme. C'est-à-dire, un, sa correspondance avec Jacques Chardon.
C'était effrayant.
Quand même conservé dans un coffre-fort en Suisse. Donc c'est dire quand même le soin qu'il prenait à cette correspondance.
C'est les chevaliers du fiel.
Et son journal intime, le journal inutile, qui est vraiment répugnant à plein d'endroits, et en même temps, là encore, on voit un phrasé d'une rapidité extraordinaire.
Et malgré les oppositions de De Gaulle, il a quand même fini par être élu à l'Académie française.
C'est dingue.
En 1968, et élu largement, si j'ose dire. Jean-Claude.
Quand on découvre cette biographie qui est monumentale, impressionnante, et surtout elle a quelque chose d'indéboulonnable, c'est-à-dire ce sera difficile, parce qu'on en est quand même à la troisième. Ce qu'on découvre dans cette biographie, c'est que la postérité a été bonne fille avec ce type, quand même. Parce que ce qu'on découvre à la faveur de cette biographie, c'est quand même le côté sans arrêt près de ses sous, vénal, cherchant de l'argent, cherchant des honneurs qui vont recouvrir ses déshonneurs. Je veux dire, il y a quelque chose d'assez minable chez ce type. C'est-à-dire que il a bénéficié au fil du temps.
Parce qu'il a eu une cour aussi, il a eu beaucoup d'admirateurs. Je vous rappelle que dans le journal Inutile dont parlait Arnaud Vivian, tout à l'heure, il y avait régulièrement, tous les mois, ce qu'il appelait le déjeuner du Masque et la Plume. Toute la bande des critiques du Masque et la Plume, de Bastide à Mathieu Gallet en passant par Bory, allait déjeuner avenue Bosquet chez lui, avenue Floquet, je ne sais plus, chez lui. Ça a joué en faveur aussi de la postérité.
Parce qu'il y a eu aussi, à ce moment-là, dans cette histoire littéraire française, un mouvement aussi de durcissement de la droite littéraire par rapport à l'offensive du nouveau roman. C'est ça aussi qui est très important.
Non, mais ce qu'il faut dire, c'est quand même...
Jean-Claude.
Ce qu'il faut dire, c'est que depuis Vichy, ce type n'a cessé d'être réhabilité tout le temps. Tout le temps. Alors que lui avait un peu la trouille. Hein. Il avait un peu la trouille quand il se planquait en Suisse à la Libération. Il y a quand même un peu de trouille. Alors il transcende dans ses écrits répugnants avec Chardon, mais il a quand même la trouille. C'est un petit bonhomme. C'est quelqu'un qui rase les murs en dehors de... On le voit parader, on le voit chercher les honneurs, mais en fait, c'est un type qui est pétri de trouille. C'est un petit bonhomme qui a quand même peur de ce qui pourrait lui arriver et qui, porté par cette réhabilitation qui revient tout le temps... Alors, les hussards entament le mouvement. La fameuse phrase de Solaire, elle est intéressante, parce que c'est une phrase de plus qui va vers la réhabilitation, si bien que lui croit, vers la fin de sa vie, qu'on va pouvoir éditer ses monstruosités, et que ça sera un peu les clous glorieux de son cercueil. Il est tellement minable que sur son caveau, Il a fait inscrire ambassadeur de France. Il a été ambassadeur 42 jours sur 80 ans. Ce type est absolument...
Alors qu'il aurait pu mettre cavalier, ça aurait été
oui,
mieux.
Oui, il aurait pu mettre cavalier. Non, mais c'est ça qui est bien chez Pauline Dreyfus, c'est qu'elle arrive à un équilibre qui n'est pas le mien dans la façon dont j'en parle, mais elle réussit un équilibre formidable entre ce type détestable, cet arriviste comme ça, qui est tout le temps en train de chercher des trucs assez minables. Les fameuses réceptions au Champ de Mars avec sa gorgone de femme, enfin tous les deux, ils sont charmants. Vous disiez qu'il n'y a pas d'amour dans ces livres, c'est même pas qu'il n'y a pas d'amour, c'est qu'il n'y a jamais la moindre compassion, y compris au pire moment. Ils sont inabordables, la compassion. Et par ailleurs, elle établit évidemment un équilibre entre les grands écrivains...
Sans compter aucun sens politique, parce qu'un mec qui est ambassadeur, qui est en 40 à Londres... Et qui, au lieu d'aller toquer à la porte de Gaulle, part pour Vichy.
Mais on se rend pas compte qu'il déjeune tous les midis avec Laval. Oui. Et qu'il est confident de Darquier de Poil-Poix. Et la postérité va réhabiliter ce type.
Il y a ce moment chapeau, pour moi, un sommet.
Ça sera le dernier mot parce que...
C'est quand on évoque devant lui la mort de Max Jacob, qui est mort dans un train pour Auschwitz. Oui. Et sa réaction, à un moment, c'est de dire, mais pourquoi est-ce qu'on m'a rien dit? Si quelqu'un m'avait mis au courant de la situation de ce cher Max...
Il a essayé, de sauver Irène Nemirovski.
J'y serais allé tout de suite, ouais.
Ah non, justement. Elle établit bien que, précisément, ils n'ont rien fait, ni l'un ni l'autre, ni elle ni lui, pour sauver Irène Nemirovski.
Dans le journal de guerre, il dit plusieurs fois, on va essayer de faire quelque chose pour elle.
Oui, mais Pauline Dreyfus établit que, justement, ils n'ont rien fait, aucune compassion là non plus. Non, ce qui est intéressant, une dernière chose, c'est qu'elle montre à quel point ce type est prêt à toutes les compromissions.
Paul Morand, c'est la biographie qu'on vous conseille de Pauline Dreyfus chez Gallimard. Et le journal de guerre Londres-Paris-Vichy 39-43, c'est le livre qu'on vous déconseille de lire et qui est également chez Gallimard. Allez, plus rapidement sur le titre « J'irai nager dans plus de rivières ». Toujours chez Gallimard, Philippe Labro, 84 ans, remonte le cours de sa vie qui prend sa source à Montauban, traverse l'Atlantique, remonte le temps. On croise beaucoup de beaux mondes, là aussi, Melville, Montand, Trintignant, Lazareff, le patron de François, Gainsbourg, qui a emmené Labro, je l'ai appris, dans Les Nuits de Pigalle, Tom Wolfe, l'auteur du Bûcher des Vanités, Fabrice Luchini, alors garçon coiffeur que Labro a fait débuter au cinéma, c'était dans Tout peut arriver, et puis Johnny, bien sûr, l'idole d'Olivia, pour qui Labro écrivit de nombreuses chansons, dont Jésus-Christ est un hippie, que tu chantes souvent, je sais.
Oui.
Et surtout, oh ma jolie Sarah. Bref, l'écrivain, journaliste veut aussi laisser une trace de tout ce qu'il a aimé sur Terre et il scande son récit de Jean Porteret, musique, livres, paysages, visages et les médecins qui l'ont soigné à Cochin ou Necker. Michel.
Alors moi, j'aime beaucoup les livres de citations. Je crois que c'est
le... Il y en a presque à chaque page. Hein.
Oui, c'est un livre construit de citations et j'aime infiniment ce procédé. Je crois que c'est Louis-René Desforêts qui avait écrit un roman entièrement composé de phrases d'autres. Enfin,
là, c'est pas le cas, là. Non,
non, c'est pas le cas. Mais, non. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir à me promener dans ce livre où il est question. J'aime beaucoup la page qui concerne Ernest Hemingway. Enfin, il y en a plusieurs, d'ailleurs. Il est assez souvent présent, Hemingway. Mais Ernest, on dit Ernest. On parle d'Ernest et c'est Hemingway. Et je trouve ça merveilleux. Moi, ça m'a vraiment fait tout mon plaisir.
Jean-Claude.
Oui, c'est une vie magnifique. Enfin, c'est une vie de journaliste dont on aimerait en avoir vécu le dixième. Et journalistiquement, il est toujours, très souvent, au bon endroit, au bon moment, y compris à Dallas, après la mort de Kennedy. Il a touché à tout, presse écrite, radio, cinéma, parolier donc de Johnny Hallyday, écrivain. On lui doit aussi, et j'allais dire, lui aussi est encore au bon endroit, des récits tout à fait définitifs sur l'enfer de la dépression. C'est un livre qui est aussi touchant, c'est-à-dire que on voit bien que Labro se défend aussi des apparences qu'il donne, c'est-à-dire que il essaie de faire profession d'humilité, alors on sait bien que c'est pas le cas et qu'il a cette tendance. Il emploie le mot qu'emploie Sacha Guitry, qui est toujours marrant, qui est le mot de moitrinaire. Il y a chez Philippe Labro ce côté un peu moitrinaire, donc il fait semblant de combattre ça et de ne pas l'être. Il l'est. Bon, admettons. Je trouve que c'est un témoignage exaltant d'un chemin de vie et surtout, il y a chez Labro les qualités et les dons de tout bon journaliste, c'est-à-dire la passion, la curiosité, le regard, la plume et le vif désir de témoigner. Et il y a ça chez lui. Et les citations, oui, en effet, il y en a trop de citations dans son livre, mais il faut les voir non pas comme un catalogue, mais comme des lampes de poche, comme des choses qui l'ont éclairé au cours de sa vie. Et je trouve qu'il y a une manière de reconnaissance à faire ça, que je trouve assez belle. Et dernière chose, il dit à la fin qu'il va probablement écrire d'autres livres. On le lui souhaite. Il n'empêche que j'ai lu ce livre un peu comme une forme de testament.
Une forme testamentaire. Olivia.
Ah oui, il est un peu testamentaire. Il est très beau parce que je trouve qu'il oscille entre l'euphorie d'un enfant qui veut tout vivre, tout garder. Et puis quand même la mélancolie d'un homme qui regarde sa vie passée. C'est un livre qui m'a fait penser un peu au Sel de la vie de Françoise Héritier, parce qu'il pourrait se contenter quand même de raconter tout ce qu'il a vu, et il a beaucoup vu.
Ah ben il le fait quand même. Rencontré.
Oui, mais je trouve qu'il le fait un peu en vagabond, un peu en sautillant. C'est ça que j'ai beaucoup aimé. Parce qu'après, il y a des passages extraordinaires avec Pierre Lazareff. Moi, ça m'intéresse, travaillant elle, Hélène Lazareff. Mais enfin, Pierre Lazareff qui dit aux journalistes, à défaut d'être intelligent, soyez intelligible. Moi, ça fait ma journée. Hein. Ou parce que Labro se fâche avec un de ses collaborateurs, il y va un but de lui-même, il le dit. Et il lui dit, vous êtes entouré de cons. Et Lazareff lui répond, oui, mais j'aime aussi les cons. Hein. Et il lui dit, c'est une sacrée leçon d'humanité qu'il lui donnait. Mais je trouve qu'au-delà des rencontres, il y a quelque chose sur ce qui a fait...
Il y a un très émouvant portrait aussi de Trintignant.
Magnifique, qui se reproche avec une lettre d'excuse. Il a humilié parce
et blessé.
Parce que Melville lui avait dit, pour être un bon metteur en scène, il faut humilier les gens, il faut être odieux. Oui. Et des années après, il lui écrit cette lettre très belle. C'est très beau ce passage.
Absolument.
Et là, la scène de la fin où il raconte Prévert et Picasso qui sont sur la plage et l'un demande à l'autre, t'as compris quelque chose? L'autre répond, non, rien du tout. Et Labro dit, j'ai rien compris non plus, mais j'ai aimé. Il y a quelque chose sur l'amour de sa femme aussi qui est très très beau.
Arnaud.
Oui, respect. La page où il se recueille sur la dépouille de Johnny est très belle.
Oui.
Vraiment belle. Hein.
C'est, oui. C'est le seul
Johnny
à avoir décrit
tout petit. Voilà. Par ailleurs, moi j'ai du respect pour quelqu'un qui arrive à publier sa playlist dans la NRF. Je crois que même Michel n'a pas encore réussi. Il faut dire que Michel mettrait 50 morceaux des Stones, donc ça serait peut-être un petit peu lassant. Mais,
un peu répétitif, oui.
Hein, mais j'ai relevé deux erreurs, je crois. La première concerne Jean-Patrick Manchette, que Labro a bien connu, qu'il a fait travailler comme scénariste. Et il dit que Labro dit il y a du Manchette chez Houellebecq. Alors ça, je ne pense pas du tout. Ça m'étonnerait que Houellebecq ait lu Manchette, et sa définition du style n'est pas du tout la même. Et l'autre erreur, ça concerne Gainsbourg, là j'en suis absolument certain, c'est que il dit que c'est peut-être « Je t'aime moi non plus » viendrait d'un vers d'Edmond Rostand, et alors là, Gainsbourg a toujours expliqué d'où vient « Je t'aime moi non plus », ça vient de Salvador Dali qui disait « Picasso est peintre, ouais. Moi aussi, Picasso est espagnol, moi aussi, Picasso est communiste, moi non plus ».
J'irai nager dans plus de rivières. Moi, j'aurais mis d'ailleurs un futur plutôt qu'un conditionnel, mais ça ne regarde que moi.
C'est un vers de Borges.
Oui, mais ouais, n'empêche, dans le titre, j'aurais peut-être mis un futur, magnifique, que je trouve plus prometteur d'une certaine manière. C'est chez Gallimard et c'est signé Philippe Labro. Allez, on termine avec un classique, si j'ose dire, parce que Le Masque traite aussi les classiques et que tout le monde connaît, que tout le monde a lu. C'est Lettre à un jeune poète de Rainer Maria Rilke, adressé ses lettres entre 1903 et 1908 à un jeune austro-hongrois de 19 ans qu'il ne connaissait pas et qui lui avait écrit Franz Xaver Capus, alors cadet à l'école militaire, hésitant, ce qui me fait toujours un peu sourire, entre la carrière des armes et la poésie. Paru en France en 37, ce petit livre est devenu un succès mondial. C'est ce que Barthes appelait une œuvre du vouloir écrire, un guide à la fois spirituel, j'en reviens à ce que tu disais à propos de Montaigu, spirituel et littéraire, adressé à celles et ceux qui choisissent la voie de la littérature. Rentrez en vous-même, cherchez la raison qui, au fond, vous commande d'écrire. Et si de ce retournement vers l'intérieur, de cette plongée vers votre propre monde, des vers viennent à surgir, vous ne penserez pas à demander à quiconque si ce sont de bons vers. Et voici que pour la première fois sont publiés, avec les 10 lettres de Rilke, celles du jeune Franz Xaver Capus qui les a inspirées, un garçon romantique dont Rilke très clairement a calmé les angoisses et la mélancolie. Et c'est au seuil, donc ce volume tout à fait inédit, dans une traduction signée Sacha Zilberfarb. Arnaud.
Ben c'est intéressant de lire les lettres de Capus, parce que c'est vraiment ce type, on se dit, on imagine que s'il jouait au loto, il aurait gagné le gros lot. C'est-à-dire, pourquoi est-ce à lui que Rilke a répondu? Alors, il y a une explication qui est complètement... c'est qu'il fait la même école militaire que Rilke avait faite 7 ans plus tôt. Ça peut être joué dans cette affaire, mais quand on lit ses lettres, on voit quand même le jeune homme extrêmement flagorneur. C'est-à-dire qu'il y va, hein, il y va... avec les compliments, les tartines, etc. Ça peut être décidé Rilke à lui répondre. Ce qui est fascinant surtout, je trouve, là, c'est la postface qui est merveilleuse, très intéressante, où j'ai découvert que ces lettres aux jeunes poètes sont vraiment rentrées dans la pop culture, que à l'Acteur Studio, tous les acteurs américains, Marilyn Monroe, Dustin Hoffman, Jane Fonda, tous avaient ce livre-là, comme c'était leur livre de chevet, alors que ça ne parle pas de cinéma, ça ne parle même pas de dramaturgie, ça parle de poésie.
Mais c'est un guide spirituel.
Lady Gaga s'est fait tatouer « Dois-je écrire ?» Donc une des phrases célèbres de Rilke, « Dois-je écrire ?» Alors je ne sais pas où elle s'est fait tatouer.
Sur le bras gauche.
Alors oui, mais à mon avis quand même, elle ne l'a pas lu assez souvent, hein, parce que personnellement, quand j'écoute l'œuvre de Lady Gaga, je t'aurais répondu plus souvent non. Mais voilà.
Olivia.
Ouais, je l'ai relu évidemment avec plaisir. Et c'est vrai que les lettres du jeune poète en question sont sans arrêt dans la demande. Et d'ailleurs, Rilke n'y répond pas. Ce qui m'a saisi, c'est une page, la page 69, ce qu'il dit des femmes, où il explique qu'un jour prochain, les hommes seront dépouillés des conventions qui les réduisent à être des femmes et que les hommes qui ne voient rien venir seront surpris et vaincus. Et que ce jour-là, les relations amoureuses seront révolutionnées parce qu'on ne parlera plus d'un homme et d'une femme, mais de deux êtres humains.
Jean-Claude.
Oui, mais j'ai sursauté comme toi quand j'ai lu ça. Je me suis dit, c'est très étonnant. C'est très étonnant que les féministes n'aient pas récupéré ce livre. Alors, évidemment, on connaissait les lettres à un jeune poète. Si j'osais dire, c'était mieux avant. C'est-à-dire que quand on connaissait pas les lettres de ce groupie-là, elles sont pénibles.
Non,
monsieur. Il est lourd.
Ah,
non.
Ça change rien aux lettres de Rilke.
Si. Mais si, c'était mieux de pas. C'est des lettres exaltées, insistantes. Rilke ne sait pas comment s'en débarrasser. Il lui fait comprendre que quand il reçoit ses poèmes, ça serait bien que...
Mais heureusement qu'il a existé. Ça lui a inspiré un des livres.
Oui, sans doute. Mais ce qu'on a, c'est les Jérémiades de cet adolescent. Et c'est vraiment pénible. Il lui fait des déclarations d'amour et tout ça. Je pourrais continuer sur ce registre parce que j'ai trouvé ça extrêmement pénible.
En même temps, c'est lui qui l'entraîne vers le sexe.
Attends.
Des questions, voilà.
J'ai trouvé ça extrêmement pénible, j'en avais marre. Et soudain, à la fin du livre, on a huit pages de ce capus où il raconte la nuit du Nouvel An sur le front. Et là, je suis tombé de ma chaise tellement c'était bien, c'est formidable. Et en aucun cas, vous n'avez ces promesses-là dans les lettres vraiment pénibles qu'il envoie à Rilke. Et d'un seul coup, vous avez la révélation de...
Ça va devenir un grand journaliste, hein, par ailleurs.
Oui, d'accord. Mais en tout cas, on parle des lettres.
Mais pas un bon écrivain.
Oui, voilà, on parle des lettres là.
Pas un bon écrivain, mais même s'il a eu du succès avec ses romans.
Mais il voulait être un grand poète.
Et c'est le journaliste là qu'on sent.
Franchement, ça lui rend pas service de publier ces lettres-là.
Michel?
Oh, bah, c'est un livre mythique, Les Lettres à un jeune poète. Je me souviens d'avoir vu mon fils lire ce livre sans que je...
Ah bah moi, je l'ai lu en boucle, comme on écoute un disque entre 17 et 18 ans. J'ai tellement noté que j'ai trois éditions.
Sans les lettres de Capus, oui.
Oh, mais c'est pas grave.
Simplement, personne...
Après, on en reparle ce soir de Rilke.
Simplement, personne n'a parlé de la littérature comme une expérience spirituelle, comme l'a fait Rilke. Ça ne change rien, l'histoire du type, on s'en fout complètement.
Mais non.
Et puis c'est la vérité, c'est comme ça, c'est toujours comme ça. Non, c'est formidable, c'est très bien.
Allez, lisez, relisez les lettres à un jeune poète de Rilke. L'occasion, c'est donc cette nouvelle édition inédite au Seuil, avec les lettres qu'aime tant Jean-Claude de Franz-Xaver Capus. Allez, le temps est venu des conseils. On va commencer avec Olivia.
Un récit et en même temps un beau livre. Helmut et June. C'est l'histoire...
Helmut, je vois. June, je ne vois pas.
D'Helmut Newton et de sa femme, June, qui est plus connue sous le nom de photographe d'Alice Springs.
Ah.
Et c'est absolument merveilleux. C'est signé José Alvarez, qui est le fondateur des éditions du Regard. D'abord, on découvre toute l'enfance d'Helmut Newton, qui est un petit garçon. Il dit qu'il est né heureux, mais il est né heureux dans une famille juive flamboyante à Berlin, comment il doit se cacher et puis fuir évidemment son pays, d'abord pour Singapour, puis pour l'Australie, où il va rencontrer June, qui est une très grande actrice australienne, qui a joué Jeanne d'Arc, et qui va comprendre que son mari est plus doué qu'elle, et qui va se sacrifier pour lui, et en même temps, ils vont créer toute leur vie ensemble, C'est un magnifique livre et vous avez en plus toutes les photos d'Helmut Newton, c'est chez Grasset.
Chez Grasset, le conseil d'Arnaud.
C'est Noël et donc pour une fois, je vous recommande...
Ah ça, tu t'en es rendu compte de ça?
Oui, c'est oui, enfin bien sûr.
Ce sont les fêtes, tu veux dire.
Oui, mais je ne vis pas hors du temps exactement. Et je vous recommande pas un beau livre, mais un roman graphique. C'est rare que j'en lise, mais là je suis tombé raide dingue de ce roman graphique qui est signé Frédéric Sirier pour le texte et Romain Lamy pour les dessins. C'est une biographie, on peut dire un roman graphique sur Frantz Fanon. Ça commence donc à Rome en août 61. Frantz Fanon, donc le Martiniquais, grand penseur de la Révolution, grand penseur de la décolonisation, qui est devenu psychiatre, qui travaillait en Algérie, qui a été proche du FLN, enfin qui était du côté du FLN, rencontre Sartre. Il va bientôt mourir, Fanon, à Rome, et Sartre, on le sait, va écrire la préface des Damnés de la Terre. Et donc cette BD finalement raconte d'une manière à la fois ludique et minutieuse toute la vie de Fanon. C'est remarquablement bien fait, les dessins sont magnifiques, franchement voilà, c'est à la Découverte,
aux éditions de la Découverte. Mon conseil, ça c'est un livre que normalement tu devrais adorer, Olivia, qui s'appelle Valentine d'Arabie, ça te dit quelque chose? Signé Fawzia Zouhari, qui est une écrivain franco-tunisienne, aux éditions du Rocher, et c'est la biographie d'une femme dont je ne savais strictement rien, incroyable, Valentine Vercel, alias Valentine de Saint-Point, qui était l'arrière-petite-nièce de Lamartine. Le château de Saint-Point était celui de Lamartine. Elle a été à Paris au moment de l'égérie de la Belle Époque. Elle dansait nue sur toutes les scènes de théâtre, y compris d'ailleurs à New York. Elle a été la maîtresse de Rodin. Elle a publié le manifeste futuriste de la Luxure. Et tout d'un coup, elle s'est convertie à l'islam. Elle est devenue Rawiya Noureddin. Elle est morte au Caire en 1953, où elle ne faisait que se consacrer à la prière et à militer pour le nationalisme égyptien contre, à l'époque, la colonisation britannique. On parlait tout à l'heure de la conversion, mais alors à propos de Montaigne.
Une autre version de la grâce.
Mais avec une femme, quand on voit la vie qu'elle a eue avant et celle qu'elle a eue après, c'est sidérant. Valentine d'Arabie, et c'est aux éditions du Rocher. Le conseil de Michel.
Alors c'est un petit livre étonnant. C'est un texte inédit de Paul Valéry qui s'appelle Le Yalou. Il y a deux textes en fait. Il y a un qui s'appelle Le Yalou et l'autre qui s'appelle Orient et Occident. Ce sont deux textes qui traitent des relations entre l'Orient et l'Occident. Moi je ne suis pas du tout un connaisseur de Paul Valéry, mais j'ai trouvé ces deux textes extraordinaires de beauté, d'intelligence.
Donc, et c'est chez ?
C'est au Bruit du Temps, qui est un excellent éditeur, qui a publié...
Petit éditeur, mais qui, grâce à toi, existe souvent à la Tribune du Masque et la Plume.
Oui, oui.
Jean-Claude. Voilà.
Chez un éditeur de Toulouse qui s'appelle Le Pas de l'Oiseau, le récit de Olga Schmidt, qui s'appelle Suprême Soviète. Et Suprême Soviète, c'est l'histoire de sa famille, quand elle a 14 ans, qui est condamnée à un exil forcé du jour au lendemain. Du jour au lendemain, sa mère est une grande comédienne, son père est un metteur en scène très connu de Moscou, sa mère a quitté son père, elle a bien fait, elle est partie vivre avec un artiste très connu, mais un peu en marge, et ils sont dans le collimateur des autorités soviétiques. Et une nuit, on vient chercher la mère d'Olga Schmidt, et on l'entraîne dans la banlieue de Moscou, mais très très loin, elle ne sait pas ce qui va lui arriver, elle craint le pire, et elle va se retrouver avec d'autres artistes à jouer une pièce de théâtre avec des artistes qu'elle n'a pas vus, qu'elle ne connaît pas, et soudain arrive Brejnev. Donc elle joue, c'est tout à fait fantomatique, et après la pièce, elle ne veut pas participer au banquet. Et c'est ce qui va provoquer l'exil forcé. Donc, ce récit est en deux temps. Il y a son enfance soviétique, et là, la description du monde soviétique et de la vie soviétique extraordinaire, et l'arrivée dans le monde occidental, l'exil, et qui est absolument stupéfiant. C'est très, très
bien. Et c'est aux éditions
Le Pas d'Oiseau, avec une préface d'Emmanuel Carrère.
Tous ces conseils, vous les retrouvez sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Très rapidement, je vous rappelle que c'est le 31e bientôt prix des auditeurs du Masque et la Plume, et que comme chaque année, je vous propose de voter pour le film français et les films étrangers que vous avez préférés. Au cours de l'année 2020, vous nous écrivez avant le 20 décembre vos deux choix sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr, à la page courrier ou réagir, et nous décernerons ce prix, votre prix, en début d'année prochaine, et j'espère en public. Merci Olivia de Lamberterie, Arnaud Vivian, Jean-Claude Raspienjas et Michel Crépu pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin. avec la collaboration de Lysiane Selam. Et ce soir, au théâtre de l'Alliance Française, à la technique, il y avait, et je les remercie, Bernard Laniel, Julie Garraud. La réalisation était signée Xavier Pestugia. Dans une semaine, on parle de cinéma, à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.